Quelquefois, dans une conversation, on entend quelqu'un dire « Qui l'aurait cru ?» Eh bien, c'est sûr, cela exprime une surprise. Comme on ne peut pas deviner l'avenir, on ne peut jamais connaître à l'avance comment les choses évolueront, ni les conséquences d'un fait pourtant anodin. Quand l'apôtre Jean prend sa plume pour écrire une courte missive à son ami Gaius, il ne se doute certainement pas que cette petite lettre serait conservée et que des siècles plus tard, elle nous donnerait des informations précieuses sur le christianisme de la fin du premier siècle. On peut se demander en effet quel genre de problèmes rencontrent les églises et comment les croyants font face aux difficultés de la vie de tous les jours et de quelle façon ils manifestent concrètement l'amour chrétien. Cette petite lettre lève le voile sur certaines de nos interrogations. La troisième épître de Jean est la plus courte et la plus personnelle de l'apôtre. Elle est écrite à une personne précise, un homme appelé Gaius. Avec l'épître à Philémon, écrit par l'apôtre Paul, ce sont les seules lettres vraiment intimes du Nouveau Testament. En effet, les épîtres pastorales que Paul adresse à ses deux disciples, à Timothée et Tite, sont aussi destinées à être lues en public. La lettre de l'apôtre Jean à Gaius est l'un des rares, et donc précieux, fragments de la correspondance chrétienne à l'Église primitive. À l'instar de 2 Jean, 3 Jean aborde le devoir des croyants de manifester amour et l'hospitalité tout en restant fidèle à la vérité. La deuxième épître de Jean en a révélé le côté négatif. On ne doit pas aider du tout les hérétiques parce que c'est encourager leur enseignement de mensonge. 3 Jean est le pendant positif de ce principe. En l'occurrence, on doit aimer et prendre soin de tous ceux qui défendent la vérité des Écritures et la personne de Jésus parce qu'ils le méritent et ont tous les droits. Si Jean écrit à son ami Gaius, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour confronter un problème sérieux causé par un certain Diophès. Cet homme important et influent fait partie de l'église de Gaius, mais devenu, semble-t-il, mégalomaniaque, il refuse d'accorder l'hospitalité à des enseignants itinérants, pourtant approuvés par l'apôtre Jean. Diophès est peut-être bien l'un des premiers exemples d'un responsable d'église despotique, mais, au cours des siècles, il a fait d'innombrables émules, et encore aujourd'hui. Malheureusement, les hommes de son gabarit ne manquent pas. De la situation ecclésiastique primitive dans laquelle un groupe de responsables d'égale autorité dirige une assemblée chrétienne a émergé un système où un seul homme assume une prééminence sur les autres anciens et devient le grand chef, l'évêque, alors qu'à l'origine ce titre est simplement un synonyme pour ancien. Cette situation s'est probablement produite chaque fois qu'un homme au caractère autoritaire a pris de l'ascendant sur les autres responsables. Ces derniers n'ont alors pas d'autre choix que de se soumettre et d'entrer en conflit avec la forte tête. Diotrephe, le despote de 3 Jean, a tout pour plaire, car non seulement il veut être supérieur aux autres, mais ensuite il a pris la mauvaise habitude d'excommunier ceux qui le contredisent et qui accueillent sous leur toit les enseignants fidèles à la vérité. Il va même jusqu'à calomnier l'apôtre Jean et à mettre en doute son autorité apostolique. Tout ça fait vraiment désordre et Jean écrit donc à Gaius afin de l'encourager à rester fidèle à la vérité tout en continuant, comme il l'a fait jusque-là, d'accorder son hospitalité aux étrangers et en particulier à Démétrius qui vient à lui pour recommander par l'apôtre. Jean informe aussi Gaius qu'il s'occupera personnellement du cas de Diophès, dès qu'il sera arrivé, car il a bien l'intention de se rendre sur place. Jean déclare sans ambiguïté que Diotrephe agit mal, mais il ne nous dit pas pourquoi ce dernier refuse de recevoir les frères itinérants. Il est cependant juste de penser qu'il les perçoit comme une menace à son autorité, mais de toute façon, les despotes n'ont jamais de mal à trouver des fausses raisons pour justifier leurs mauvaises actions. Étant donné que le style, la structure et le vocabulaire de trois Jean se rapprochent étroitement de ceux de 1 et 2 Jean, il ne fait aucun doute que ces trois épîtres sont de la même plume. L'autorité pleine d'assurance de trois Jean, comme des deux autres épîtres, convient parfaitement à un apôtre. C'est vers la fin du premier siècle, alors que Jean est à Éphèse, qu'il écrit cette lettre à Gaius. Cet homme habite sans doute quelque part dans la province romaine d'Asie, à l'ouest de la Turquie actuelle. Si Jean écrit cette courte lettre à son très cher ami, c'est parce que d'une part, il veut assumer qu'il peut toujours compter sur lui pour héberger des prédicateurs itinérants, et d'autre part, pour lui demander d'accorder l'hospitalité à Démétrius, un fidèle du Seigneur et probablement aussi le porteur de cette lettre. Au premier siècle, l'hospitalité entre croyants n'est pas un luxe, mais une nécessité. En effet, lorsque l'apôtre Paul explique ce qu'il doit endurer pour la cause de Jésus-Christ, plusieurs de ses déboires sont directement liés à ses déplacements et voyages. Aujourd'hui, presque partout dans le monde, on peut trouver un hôtel correct, relativement confortable, et où on peut dormir sur ses deux oreilles. À condition, quand même, de prendre un minimum de précautions. À quelques exceptions près, parce qu'il y en a toujours. Dans la plupart des pays, les autorités ont compris que le tourisme est une manne considérable et qu'il serait stupide de s'en priver. Mais pour qu'il y ait un flot continuel de moutons qui acceptent de venir se faire tondre, il ne faut pas qu'il y en ait trop qui se fassent dévorer en route. La police essaie donc d'assurer un minimum de sécurité dans les lieux touristiques. Mais au premier siècle, rien de tout cela. Les bandits de grand chemin pullulent, et les quelques auberges qui existent sont insalubres, des lieux de prostitution, et leurs propriétaires, des gens peu recommandables. À l'époque de l'apôtre Paul, les voyages sont ardus, désagréables et dangereux. D'ailleurs, dans sa seconde épître aux Corinthiens, il résume ses expéditions missionnaires par le mot « danger », qu'il emploie 8 fois. Ceux qui sont obligés de voyager dépendent donc de personnes prêtes à les accueillir chez eux. Pour les païens, l'hospitalité est une grande vertu, et selon la vision du monde grec, les voyageurs doivent faire l'objet de leur hospitalité parce qu'ils sont sous la protection de Zeus Xenios, dieu des étrangers. En fait, le monde antique avait mis en place un système de visiteurs amis en vertu duquel des familles vivant dans différentes parties du pays s'engageaient à recevoir chez eux leurs membres respectifs. Le lien ainsi créé entre divers clans se transmet de génération en génération, et pour se prévaloir du privilège qui lui est associé, le visiteur doit montrer patte blanche, c'est-à-dire porter dans ses affaires un gage qui l'authentifie auprès de ses hôtes. Dans l'Antiquité, celui qui sort de son réseau social met sa vie en péril parce qu'il entre dans un autre monde où il est un étranger et donc aussi vulnérable que la veuve et l'orphelin. Dieu exhorte donc son peuple à être hospitalier. Dans le psaume 146, le psalmiste écrit « L'Éternel protège l'étranger, il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. » L'Ancien Testament contient beaucoup d'exemples de personnes hospitalières, Melchisédek, Abraham, Lot et Job, pour les premiers à être mentionnés. Les prophètes de l'Éternel comptent aussi sur l'habitant. Élisée se rend toujours chez la Tsunamite et Luc apporte que, quand Jésus envoie 70 de ses disciples en mission, il leur dit « N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord « Que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander d'hospitalité. » Dans les évangiles, plusieurs personnes sont citées pour avoir donné l'hospitalité à Jésus. Les apôtres, Pierre et surtout Paul, sont accueillis à maintes reprises par diverses personnes. Et tous deux exhortent leurs lecteurs à recevoir dans leur maison les croyants de passage. L'hospitalité n'est pas une simple obligation culturelle. C'est un devoir chrétien au moyen duquel se manifeste concrètement l'amour pour les frères. Paul enseigne d'ailleurs que l'hospitalité est une vertu chrétienne et doit caractériser ceux qui aspirent à la charge de responsable d'église. Un curieux passage de l'épître des Hébreux dit « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » Des anges seraient-ils encore parmi nous? C'est fort possible. Comme ils voyagent incognito, il faut accueillir tous les frères et pas seulement ceux qui portent de grandes ailes blanches. Au premier siècle, il est courant pour les chrétiens d'ouvrir leurs portes aux prédicateurs de passage dans leur assemblée. Mais il faut bien sûr que ce dernier soit fidèle à l'enseignement apostolique, ce que Jean souligne dans sa seconde épître. Ici, dans la troisième, l'apôtre enseigne que l'hospitalité doit être étendue à tous ceux qui sont dans la vérité. Cette petite lettre concerne trois personnes qui sont évaluées en fonction de leur attitude vis-à-vis de la vérité et des frères. Il y a d'abord Gaius, qui est félicité parce qu'il obéit au Seigneur et montre concrètement son amour pour les croyants de passage en les accueillant chez lui. Ensuite, il y a Diotrephe, qui est là, hors la loi, parce qu'il entrave la vérité et l'amour fraternel. Ensuite, cette lettre mentionne brièvement Démétrius, qui est digne d'être aimé pour sa fidélité à la vérité. Je commence maintenant de lire le troisième épître, ou plutôt lettre de Jean. L'ancien à mon bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Tout comme dans De Jean, l'auteur se donne le titre de l'ancien, un mot qui signifie aussi bien homme âgé que sage. Et c'est bien vrai, parce que, d'une part, l'apôtre doit avoir plus de 90 ans, et d'autre part, il détient une autorité et jouit d'une notoriété considérable, en tant que dernier témoin oculaire de la vie de Jésus. Il assume, au moins par l'imaginaire des croyants de son époque, la fonction de gardien spirituel de l'Église de Jésus-Christ. Gaius est un nom très courant dans l'Empire romain, et on trouve plusieurs personnes qui s'appellent ainsi dans le Nouveau Testament. Cependant, le Gaius auquel Jean écrit n'est probablement pas l'un d'eux. À part ce que Jean dit de lui dans cet épître, nous ne savons rien de cet homme, mais tout porte à croire qu'il est l'un des responsables de l'Église que Jean mentionne, et il est connu pour son ministère d'hospitalité. Cela signifie aussi qu'il a une grande maison et qu'il est relativement riche. Il sait aussi que Jean le porte dans son cœur et en haute estime, parce qu'il s'adresse à lui quatre fois dans le terme affectueux « agapé », qui signifie « bien-aimé ». Cet homme est aimé du Seigneur, de l'apôtre et des croyants. Dans sa seconde épître, Jean s'adresse à Kyrias, la grande dame, et fait trois remarques à son sujet. Il dit de lui et des autres croyants l'aiment et qu'elle est l'élue de Dieu. Ce que Dieu choisit sont ses bien-aimés. et ils sont aimés des autres croyants. Voilà ce qui constitue la dynamique de l'Église de Jésus-Christ. Non seulement Jean aime Gaius, humainement parlant, mais il dit aussi l'aimer dans la vérité. Le mot « vérité » figure 6 fois dans cette courte lettre, donc 4 fois dans l'introduction. Ce qui en fait un thème important, ici encore, la vérité et l'amour sont inséparablement liés parce, comme toujours dans les Écritures, la vérité est la base sur laquelle repose l'amour vrai. Les croyants doivent aimer leur prochain, donc tous les hommes. Mais dans les épîtres de Jean, il est question de l'amour fraternel entre ceux qui font partie de la famille de Dieu. Je continue de lire 3 Jean. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Au 1er siècle, la salutation de Jean, qui fait allusion à la santé, est très courante et ne veut donc pas dire que Gaius est malade. Cependant, on peut être sûr que Jean n'adresse pas de simples vœux formellement pieux et polis à son ami parce qu'il se soucie réellement de son bien-être, tant sur le plan spirituel que physique. Dans l'Empire romain, chacun traite son prochain avec mépris, indifférence et dureté, et cela même chez les Juifs. À la lecture des 4 évangiles, ou de ce qu'écrivent les auteurs sacrés concernant Jésus, on voit que le Seigneur ne manque jamais d'exercer la miséricorde à l'égard de ceux qui souffrent, tant dans leur corps que dans leur âme. En l'accompagnant pendant 3 ans, Jean a découvert ce qu'est la compassion et l'amour pour les autres. Il se réjouit de ce que Gaius marche vraiment avec le Seigneur. Mais, comme je l'ai déjà dit, il manifeste également un souci sincère pour son ami sur le plan physique. Cette remarque de l'apôtre montre qu'il est tout à fait légitime de prier pour les besoins temporels des croyants, surtout quand ils souffrent dans leur corps. Même si un jour ou l'autre nous devons tous mourir à cause du péché, le principe de mort qui est en nous, Dieu se soucie du bien-être physique de ses enfants. Les lois alimentaires draconiennes de l'Ancien Testament, ainsi que les règles en matière d'hygiène et même la circoncision, servaient à protéger l'état de santé du peuple d'Israël en vue de son efficacité et de sa préservation. Dans le Nouveau Testament, dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul lui conseille de boire du vin, et pas seulement de l'eau, parce qu'il a des problèmes de digestion. Le souci de Paul pour sa santé, pour la santé de Timothée, montre son amour pour lui, mais aussi son désir de voir son disciple servir le Seigneur sans entrave. Je continue le texte de 3 Jean. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères venant de chez toi et rendant témoignage de la vérité qui est en toi m'ont dit que tu marches dans la vérité. Les participes présents, venant et marchant, indique un événement qui se répète de temps à autre. En d'autres mots, Jean sait de plusieurs sources que Gaius est un homme de bien sur qui on peut compter. Dans sa seconde lettre, Jean écrit à Kyrias. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. Nos contemporains blasés sont en quête perpétuelle de divertissement mondain. Mais Jean se sent comblé quand il apprend que les croyants qu'il connaît personnellement demeurent fidèles au Seigneur. Et si ces derniers sont ses enfants spirituels qu'il a lui-même amenés au Seigneur, alors sa joie est encore plus grande. L'objectif ultime de tout pasteur fidèle au Seigneur et que ceux qui l'enseignent obéissent à la volonté de Dieu, et que leurs professions de foi sont attestées par une vie droite. Pour ce qui est de Gaius, il est probable que ce sont des prédicateurs itinérants qu'il a reçus dans sa maison qui ont rendu ce bon témoignage de lui. Comme je l'ai déjà dit, au 1er siècle, l'hospitalité est une manifestation importante de l'amour fraternel. Elle est particulièrement mise en valeur dans cette troisième lettre, parce que Jean établit un contraste saisissant entre Gaius et Diophès, dont la conduite exécrable est décrite plus loin. Alors que l'apôtre dit à Gaius « Tu marches dans la vérité », il dit de Diophès « Il aime être le premier ». Gaius est certes hospitalier, mais ce qui réjouit encore davantage Jean est son attachement à la vérité. Comme c'est toujours le cas, l'amour sincère découle de l'obéissance aux préceptes que Dieu nous donne dans sa parole. Non seulement Gaius connaît la vérité, mais il s'y conforme dans sa vie quotidienne. Que ce soit dans le domaine spirituel ou moral, il est soumis à Dieu, ce qui se manifeste concrètement quand il pourvoit aux besoins des prédicateurs de la bonne nouvelle. De passage chez lui, la foi authentique produit toujours des bonnes œuvres. Tout comme c'est le cas ici pour Gaius, dans le Nouveau Testament, il est fréquent que des croyants soient loués pour leur service ou leur fidélité. Ces exemples sont à suivre, et je ne dois pas être avare de compliments sincères quand ils sont mérités. Non seulement ils facilitent les relations humaines, mais y encouragent la personne qui les reçoit et la motive à persévérer dans la bonne voie. Ce principe vaut pour tous les êtres humains, même et surtout pour les enfants.